dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présenté par Jean-Louis.
C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 31 août 2026. Dans cette chronique du groupe Fred Zeller, je vais commencer par vous porter à votre connaissance le communiqué de presse hebdomadaire relatif à la venue du pape en France fin septembre. Et ce communiqué de presse pose cette semaine la question « Un pape défenseur des victimes sexuelles du clergé catholique ?» et apporte quelques éléments de réponse. Et puis après, j'ai deux informations, deux contributions qui sont intéressantes. C'est d'une part au plan de l'activité internationale de la libre pensée, la présence de la Fédération nationale de la libre pensée au rassemblement des athées polonais. Et donc, c'est intéressant de voir comment en Pologne, dans un pays qu'on dit très largement dominé par le catholicisme, les libres penseurs et athées s'organisent et posent effectivement des problèmes qui sont importants. Et donc, je pourrais porter à votre connaissance donc, en quels termes la libre pensée, Clément Denuit, est intervenu au nom de la libre pensée. Et puis, j'ai un document, une contribution de Mohamed Lofti, qui est un journaliste, je crois, de nationalité marocaine, et sur la question d'Israël, en indiquant Israël n'est pas un pays, c'est une injustice. Et je vous lirai sa contribution dans le cadre donc, du débat sur ces sujets-là. Voilà. Alors, pour commencer, le communiqué de presse hebdomadaire sur la venue du pape en France, un pape défenseur des victimes sexuelles du clergé catholique, la question mérite d'être posée. Il devient évident que le pape Léon XIV attend beaucoup de dividendes de sa visite en France du 26 au 28 septembre 2026. La conférence des évêques de France a mis le paquet. 20 millions d'euros pour la visite du pape. Combien cela coûtera-t-il réellement aux deniers publics en moyens, personnels militaires et civils mis à la disposition, sécurité, subventions diverses, aides matérielles et financières? Nul ne le sait, car cela relève quasiment du secret défense. Il est clair aussi que le président de la République Emmanuel Macron en attend beaucoup aussi pour redorer le blason si terne et souillé de ses deux mandats présidentiels. Le régime est en crise, le pays est en feu, l'économie est en ruine, des millions de chômeurs et selon l'INSEE, 15,4% de la population, soit près de 10 millions de personnes, vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Le bilan est là, incontournable. C'est la faillite économique, politique et surtout morale. Et je fais une petite insertion à ce niveau-là. L'Église de France va donc débourser 20 millions d'euros pour recevoir Léon XIV. C'est exactement la même somme qu'elle a budgétée pour, entre guillemets, et il faut beaucoup de guillemets, indemniser les 300 000 victimes des crimes sexuels du clergé catholique et des laïcs, là encore, avec beaucoup de guillemets, et laïcs, L-A-I-C-S, et non pas Q-E-S, religion. En janvier 2022, la Conférence des évêques de France a annoncé que le CELAB, c'est-à-dire le Fonds de solidarité et de lutte contre les agressions sexuelles, serait doté d'une somme de 20 millions d'euros. Elle a présenté cela comme une première avancée significative dans le processus d'indemnisation des victimes d'abus sexuels sur mineurs. Elle a, par exemple, souligné que l'archidiocèse de Paris a contribué à hauteur de 2 millions d'euros, soit moins de 1,5% du montant de sa trésorerie au 31 décembre 2019. Voilà. Donc fin de cette petite insertion qui était importante. Dans les inventaires laïques auxquels la Fédération nationale de la libre pensée a procédé, en étudiant les finances de la quasi-totalité des diocèses de France, la somme des richesses disponibles par l'Église se monte à 8 milliards d'euros, chiffre confirmé par des sources médiatiques quasi-officielles et admis explicitement publiquement par l'Église dans un documentaire télévisuel sur A2 dans lequel la libre pensée a présenté le résultat de ses recherches. Sur la base des indicateurs officiels des tribunaux de la République traitant des indemnisations pour des cas analogues, la libre pensée estime qu'une réelle indemnisation des 330 000 victimes se monterait entre 1 et 2 milliards pour que justice soit rendue aux victimes. À côté de cela, l'Église prévoit 20 millions d'euros pour cette réparation, et là encore beaucoup de guillemets, et autant pour la visite touristique, pastorale et religieuse du Saint-Père. La comparaison des chiffres ne peut que faire vomir d'indignation toute personne ayant un minimum de sentiment de dignité et de justice. Le Vatican ne se contentera pas du soutien macroniste dans cette crise. Il entend en réclamer toujours plus à des gouvernements qui plient le genou devant lui depuis 1958. Emmanuel Macron et ses séides n'ont pas ménagé leur peine pour faire échapper le clergé catholique au châtiment de ses crimes sexuels. C'est l'Église catholique, jugée partie, jugée coupable, qui décide s'il faut donner justice et réparation aux victimes, combien et comment. L'État macroniste, au nom du principe de subsidiarité promu par l'Union européenne et le droit canon, confie les responsabilités de protection de ses concitoyens, qui lui incombent, à l'Église, qui est coupable et responsable des crimes et de leur impunité. C'est le bourreau qui juge la victime. Devant ce scandale inadmissible du viol de la justice, de la démocratie et de l'égalité en droit, la libre pensée mène un combat de justice avec les associations de victimes pour que les États poursuivent les criminels et obligent le Vatican à faire les réparations nécessaires. Elle a fait, en commun avec des associations de victimes, une conférence publique à Lyon. Une conférence internationale sera organisée le 17 février 2028 à Rome, au moment du rassemblement traditionnel et historique pour célébrer Giordano Bruno, autre victime du clergé. Ensemble, venus de plusieurs pays, les associations de victimes et la libre pensée internationale demanderont à être reçus au Vatican par le pape ou un de ses représentants dûment mandatés pour aborder toutes ces questions de justice et de réparation. Voir l'appel pour la conférence internationale et cet appel, je vous en ai déjà porté la connaissance, les deux dernières chroniques. La dixième question que la libre pensée posera aux candidats aux élections présidentielles en 2027 est « Êtes-vous favorable à faire en sorte que le délai de prescription pour les crimes sexuels sur les mineurs soit porté à 30 ans à partir de la connaissance des faits et la reconnaissance des faits par les victimes ? Ferez-vous abroger les protocoles entre les diocèses et les procureurs qui favorisent de fait une justice ecclésiastique en lieu et place de la justice des hommes ? Ferez-vous en sorte que le gouvernement français réponde enfin aux questions de la Commission des droits de l'enfant de l'ONU sur la politique gouvernementale contre les crimes sexuels du clergé ? Vous engagez-vous à tout mettre en œuvre pour que des poursuites judiciaires soient engagées contre toute personne soupçonnée de crimes sexuels sur mineurs ? Il est annoncé que le pape recevra peut-être des associations de victimes du clergé en refusant obstinément de dire lesquelles, car le Vatican entend, là aussi, être seul à décider sans rendre des comptes à la société et à la justice des hommes. C'est l'Église qui choisit quelles sont ses victimes et à quoi elles ont droit pour se reconstruire. Elle est jugée partie. Et les propos tenus par Emmanuel Macron, on lit ceci. Emmanuel Macron reçoit chaleureusement Léon XIV et déclare « Nous nous réjouissons que sa sainteté, le pape Léon XIV, ait confirmé son voyage en France. Cette visite en septembre prochain sera un honneur pour notre pays, une joie pour les catholiques et un grand moment d'espérance pour tous. » La vis au bras du crime avait déjà dit Chateaubriand. Et puis au sujet donc de la conférence dont j'ai parlé tout à l'heure, conférence de presse retransmise en visio le samedi 26 septembre à 14h30. Donc ce sera l'interpellation du pape sur les problèmes des crimes de l'Église et sur le droit de mourir dans la dignité. Et je vous ai lu donc ce communiqué, cette partie du communiqué, lors des précédentes chroniques. Voilà. Alors maintenant, j'en arrive au point sur le rassemblement en Pologne, Rassemblement national des athées, avec donc qui s'est tenu du 13 au 16 août dernier, donc c'est tout à fait récent, et la Libre Pensée était invitée à s'y exprimer. Et voici la déclaration qu'a faite à cette assemblée Clément Denuit comme représentant de la Fédération nationale de la Libre Pensée. Donc il commence par dire « Je voudrais vous parler de l'athéisme, de la sécularisation, de l'anticléricalisme et de la laïcité en France en 2026. Le déclin du christianisme, la visibilité de l'islam et l'utilisation de la laïcité comme religion civile pour neutraliser l'opposition. Tout d'abord, au nom de la Fédération nationale des libres penseurs, la libre pensée, Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre invitation fraternelle. C'est un plaisir et une merveilleuse occasion d'établir des liens entre nos mouvements et nos actions, ainsi qu'une excellente occasion de mieux se comprendre et de mieux comprendre ce qui se passe dans nos pays respectifs. Premièrement, l'état des religions et de l'athéisme en France, une société hautement sécularisée. La France n'est évidemment pas dans la même situation que la Pologne. Les enquêtes indiquent que plus de la moitié de la population française s'identifie comme n'ayant pas de religion. Cependant, il faut faire preuve de prudence ici. Pas de religion ne signifie ni l'absence de croyances vagues dans l'au-delà, ni l'absence de superstition. Parmi ceux qui s'identifient à une religion, la plupart ne la pratiquent pas activement. En ce qui concerne le catholicisme, Guillaume Cuchet a démontré que depuis les années 1960, il connaît un fort déclin. Nous entendons maintenant que ce déclin serait censé s'arrêter, ou même que la tendance s'inverse. La prudence est de s'imposer. Le nombre de jeunes adultes demandant le baptême semble augmenter légèrement, mais les familles sont de moins en moins susceptibles de faire baptiser leurs enfants peu après la naissance. Les catholiques pratiquants ne représentent que 1,5% de la population française. La vitalité du catholicisme, bien qu'il reste la plus grande religion en France, n'est pas comparable à celle des églises évangéliques qui se multiplient à travers le pays. Apparemment, environ une nouvelle église ou communauté évangélique émerge chaque semaine. Ces églises offrent aux femmes en particulier un rôle plus important dans le culte ainsi que des formes de solidarité et de communion collective que l'église catholique offre moins fréquemment. Là où les religions musulmanes sont également en croissance, et c'est une grande différence avec la Pologne, il y a environ 4 millions de musulmans en France sur une population de 70 millions de personnes, et c'est à cause de la colonisation, des colonies françaises en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, et sur une île du Pacifique comme Mayotte. L'Algérie, jusqu'en 1962, était composée de 3 départements français. En règle générale, on observe que les personnes anciennement colonisées vont vivre dans le pays du colonisateur. Cependant, il faut être prudent ou prudent à l'idée de parler de l'islam au singulier. Il existe différentes formes d'islam et de musulmans dont les liens avec les croyances pratiques varient considérablement. Le rapport commandé en 2024 par Gérald Darmanin, qui est donc ministre de l'Intérieur, sur l'influence des frères musulmans en France, montre objectivement que cette influence reste marginale et que tant leur adhésion que ses ressources financières diminuent depuis environ 20 ans. Contrairement au récit promu par une partie des médias de droite, les recherches sociologiques et démographiques montrent que la majorité des musulmans pratiquent l'islam de manière plus individualiste que traditionnaliste. D'une certaine manière, après 2 ou 3 générations, les musulmans issus des immigrants sont des Français comme les autres. 63% des immigrés d'Afrique du Nord de la 3e génération font des mariages mixtes ou interculturels, interreligieux. Ce n'est pas le cas des musulmans issus des Turcs, par exemple, ils restent séparés. Mais en règle générale, il n'y a pas de multiculturalisme en France. C'est-à-dire que différentes communautés ethniques ou religieuses vivent séparées les unes des autres ou du reste de la société. La droite veut non seulement l'intégration, mais aussi l'assimilation. L'assimilation signifie que les personnes immigrées ou vivant en France et venant d'une autre culture doivent renoncer complètement à leur culture. Mais c'est impossible. Le résultat, c'est que les immigrés ne seraient jamais aussi français qu'ils devraient l'être, et cela donne des raisons, des prétextes à la droite droitière ou à l'extrémisme de discréditer ces personnes. La France est une république démocratique. Cela signifie que la France n'est pas une nation ethnique, mais une nation civique. Il n'est pas nécessaire d'être catholique, ni d'aimer manger des saucisses de porc, ni d'adorer Napoléon ou autre pour être citoyen avec les mêmes droits que les autres citoyens. C'est déjà de la laïcité ou du laïcisme. La séparation entre droits et obligations religieux, culturels et politiques. L'État ou les agents publics ne doivent pas prendre en compte ce que les gens pensent ou ce que les gens pensent ou la prostitution. Ce n'est pas un problème. Peu importe. Ce qui importe, c'est le respect du droit civil. L'affaire publique est le droit civil, le droit religieux est une affaire privée. La disparition progressive des catholiques pratiquants, combiné à l'augmentation du nombre de musulmans plus engagés religieusement, produit des effets significatifs. Lorsqu'une communauté religieuse ne représente que 10% de la population, ces mobilisations ont un impact direct bien moindre sur le pays. Le livre de Charles Mercier et Philippe Portier, « Les jeunes et leur laïcité » en 2025, montre également que les personnes âgées de 18 à 30 ans, entretiennent une relation plus libérale avec la laïcité que leurs aînés. Ces jeunes peuvent croire plus fermement à une existence après la mort tout en maintenant une relation non institutionnalisée avec la religion. Ne fréquentant pas nécessairement des lieux de culte et ne faisant plus référence aux dogmes traditionnels, ils peuvent considérer les croyances comme des éléments de connexion plutôt que comme une séparation. Nous rencontrons ainsi des personnes qui se décrivent comme catholiques sans posséder une véritable culture religieuse. Elles ne savent pas ce qu'est un sacrement ou n'ont jamais entendu parler de la Trinité. Emmanuel Todd, sociologue français, utilise le concept de « catholique zombie » par opposition au « catholicisme activé ». Par exemple, vous allez dans un musée avec des peintures et il est possible d'entendre un enfant ou un jeune élève demander « Excusez-moi, qui est cet homme sur cette croix ?» Ce déclin de la pratique religieuse correspond à une forte et rapide sécularisation de la société française. La religion occupe une place de moins en moins importante dans la vie des Français, tant symboliquement que pratiquement. Cela implique une perte de la culture religieuse sans encourager automatiquement la culture scientifique. La suppression des mathématiques du tronc commun du cursus secondaire supérieur dans le cadre de la réforme Blanquer, même si les mathématiques ont depuis été réintroduites sous une forme réduite, n'a certainement pas contribué à améliorer la littératie scientifique et épistémologique ou la compétence de la population. Deuxièmement, la persistance du cléricalisme. Bien que la société française soit devenue fortement sécularisée depuis les années 1960 et que le catholicisme ait perdu une grande partie de son influence, il ne faut pas conclure que le cléricalisme, ou même la religion elle-même, appartiennent au passé. L'Église catholique continue d'exercer une pression sur la politique. La visite du pape en France fin septembre en sera un exemple visible. Bien qu'une loi sur les soins de fin de vie ait été adoptée par l'Assemblée nationale le 15 juillet, autorisant sous certaines conditions spécifiques le suicide assisté et l'euthanasie pour certaines personnes souffrant de maladies incurables, le pape Léon XIV s'opposera à cette loi lors de sa visite. Cela a à voir avec le sécularisme, puisqu'il concerne la liberté de conscience. Comme toutes les grandes lois laïques, c'est une loi de liberté. Cela permet à ceux qui ne veulent pas endurer une souffrance inutile de partir plus tôt. Mais cela n'enlève aucune liberté aux catholiques qui rejettent le suicide assisté ou l'euthanasie. C'était le même principe pour la loi sur l'avortement. Cette loi accorde aux femmes des libertés, mais elle n'enlève aucune liberté aux femmes pratiquantes, sauf la liberté d'imposer leurs croyances religieuses à l'ensemble de la société. Le sens que l'on donne à sa vie, le sens que l'on donne à sa mort, est une affaire personnelle. Dans un pays laïque, l'Église a évidemment le droit d'appeler ses fidèles à se conformer à ses prescriptions religieuses. D'un autre côté, elle n'a pas le droit d'exiger l'abrogation d'une loi, ni d'exercer une pression politique. La question est d'autant plus sensible que l'accueil et la sécurité du pape seront assurés par les services de l'État et donc partiellement financés par tous les contribuables. Le cléricalisme quotidien de la Ve République, cependant, prend avant tout la forme de l'utilisation et de l'instrumentalisation des religions par les politiciens. La droite et l'extrême droite, mais aussi une partie du centre et de la gauche, peuvent utiliser l'islamisme, et même l'islam lui-même, comme objet de peur, afin de justifier de nouvelles formes de contrôle et de répression, tout en mobilisant le christianisme comme élément de l'identité française, par lequel un « nous » entre guillemets, s'oppose aux étrangers, ou à ceux censés menacer notre cohésion nationale. Comme vous le savez, en 2015, la France a subi d'importantes attaques terroristes revendiquées par des islamistes ou par l'État islamique. Des figures très populaires qui défendent la liberté, ou qui défendaient la liberté de caricature et d'expression, et qui travaillaient pour le journal Charlie Hebdo, furent brutalement assassinées. Le problème est que le gouvernement de l'époque, en particulier le Premier ministre Manuel Valls, a utilisé la laïcité pour combattre le terrorisme islamiste. Pourtant, le terrorisme islamiste ou les phénomènes de radicalisation religieuse ne peuvent pas être combattus par la laïcité. Si nous faisions cela, nous transformons la laïcité en un instrument de répression, un outil de police, un outil de surveillance et de contrôle. Le terrorisme ou l'incitation à la haine et au meurtre, tout comme les abus sectaires, sont déjà interdits par la loi. De plus, la loi de 1905 sur la laïcité inclut des dispositions juridiques qui obligent l'État à protéger les individus contre toutes les formes de pression religieuse ou de discrimination religieuse. Et ce moment même, en France, le projet de loi contre l'infiltration islamiste présenté par Bruno Retailleau et adopté en première lecture par le Sénat est une laïcité représentative falsifiée. Elle vise un séparatisme islamiste présenté comme une menace aux valeurs républicaines, en particulier à l'égalité entre femmes et hommes, sans toujours prendre en compte que certaines formes de fondamentalisme chrétien pourraient être soumises aux mêmes critères. Par exemple, cette année, la droite a appelé à une commission parlementaire d'enquête pour déterminer s'il existe des partis politiques islamistes ou si certains partis politiques adoptent une politique clientéliste envers certains musulmans. L'enquête a montré qu'il n'y avait pas eu d'infiltration islamiste ou musulmane dans les partis politiques. Il n'y a pas de vote musulman. Les musulmans sont plus conservateurs que les athées et devraient donc voter pour la droite. Mais parce qu'ils sont discriminés par la droite, ils votent pour des partis de gauche car ces partis ne poursuivent pas des politiques identitaires, nationalistes et discriminatoires. Vincent Thiberge, sociologue politique, s'appuyant sur des enquêtes, montre au contraire que les catholiques sont plus intransigeants que les musulmans, c'est-à-dire qu'ils sont plus susceptibles de considérer que le droit religieux prime sur le droit civil. On pourrait donc dire que de nombreux dirigeants politiques du Parti socialiste à l'extrême droite prétendent combattre le séparatisme islamiste tout en christianisant simultanément l'État et la société et présentant implicitement le séparatisme chrétien comme une situation normale. Car la France, d'un point de vue historique et culturel, serait un pays chrétien. Cette normalisation d'une forme particulière de cléricalisme s'accompagne d'un renversement du sens au principe de laïcité. Troisièmement, laïcité falsifiée. Historiquement, la laïcité établie sous la Troisième République garantit la liberté de conscience et met fin au financement public des organisations religieuses. Lorsque la loi du 9 décembre 1905 était en cours de rédaction, plusieurs conceptions étaient en conflit. La libre pensée elle-même était divisée entre une tendance libérale représentée notamment par Aristide Briand et une tendance intransigeante incarnée par Maurice Allard. Ces derniers ne cherchaient pas seulement la séparation de l'Église et de l'État, mais aussi l'affaiblissement, voire la suppression, des Églises par l'État. Elle prônait donc une forme de laïcité fondée sur la prohibition qui pourrait conduire à l'athéisme d'État. Briand, bien qu'athée lui-même, considérait cette stratégie comme politiquement contre-productive. Cela aurait permis aux catholiques, alors majoritaires, de se présenter comme des martyrs victimes. La loi devait donc garantir la liberté de conscience et la liberté de culte tout en imposant la neutralité de l'État, plutôt que d'interdire, par exemple, le port de vêtements cléricaux dans les espaces publics. Il préférait les considérer comme des vêtements que tout le monde pouvait porter librement. La Fédération nationale des libres penseurs, la libre pensée, reste attachée à cette conception. Philosophiquement, elle prône l'athéisme, la libre enquête, la méthode scientifique et le rationalisme, tout en défendant la liberté de conscience, condition indispensable à la liberté de recherche et de pensée. La libre pensée n'est pas en faveur de l'interdiction des religions, de la société ou de la sphère publique, même si elle s'oppose ou combat les religions. Pourtant, cette conception historique et libérale de la laïcité, associée à Briand, Jean Jaurès, a fait l'objet de nombreuses déformations depuis plus de 30 ans, notamment depuis 1989. Creil islamique ou affaire du voile. Certains dirigeants politiques agissent comme si la laïcité signifiait reléguer la religion à sphère privée. Pourtant, bien qu'elle impose une séparation entre l'État et les autorités religieuses, elle n'interdit en rien aux religions de se manifester publiquement par des processions, des rassemblements, des affiches ou des actes de prosélytisme. La laïcité concerne l'État, ses représentants et ses fonctionnaires. Elle ne concerne pas la société dans son ensemble. La nouvelle laïcité, théorisée notamment par François Bourgoin en 2003, rompt avec cette conception et tend à remplacer la liberté de conscience par un devoir de discrétion religieuse et a ainsi ouvert la voie à la loi de 2004 sur les symboles religieux visibles dans les écoles qui vise notamment le voile islamique. Ce développement doit être compris dans son contexte. L'affaire de Creil, l'affaire du voile, la fin de la guerre froide, les attentats du 11 septembre 2001, la diffusion de la thèse du choc des civilisations, les difficultés croissantes à intégrer des populations issues de l'immigration postcoloniale, l'extrême droite atteignant le second tour de l'élection présidentielle en 2002 et, enfin, les répercussions du conflit israélo-palestinien en France. La nouvelle laïcité acquiert ainsi une dimension répressive, identitaire et nationaliste. Elle tend à transformer un principe démocratique garantissant le pluralisme en une valeur nationale quasi-religieuse, voire en une forme de religion civile. Dans une France en pleine déchristianisation, Alors que la visibilité musulmane grandit, certains dirigeants politiques transforment la laïcité en instrument de répression. Soit on adhère aux valeurs de République, soit on est soupçonné de séparatisme. Ces valeurs, rarement définies, sont alors implicitement présentées comme étant plus proches du christianisme que de l'islam. Il est donc essentiel de distinguer principes et valeurs, car le sécularisme est une modalité politique. Et donc, je ne pourrai pas aller jusqu'à la fin de ce texte. Donc, vous le retrouverez sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée à partir de mercredi, je pense. Et nous mettrons également sur notre site les informations qui vous permettront de reprendre ce texte dans son intégralité. Et je pense que je reviendrai sur la semaine prochaine sur le texte dont je vous ai parlé du journaliste marocain Mohamed Lofti. Je vous donne donc rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller et vous propose pour terminer cette chronique le choix musical de Marc Augeret, Les Mains Blanches.
Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux qui fait des épates, il passe sa vie à nocer, à 20 ans c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse, incapable de gagner son pain, voilà le type du vrai gandin. Il a les mains blanches, les mains maquillées, il a les mains blanches, par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan, voilà ce qu'on appelle des mains de feignant. Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres, tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or, elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment, pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin, voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.